Chapitre 77. C'était d'Utique que Scipion était parti. Il avait laissé là Caton, à qui la ville devait de ne pas avoir disparu de la surface du sol. Mais tout en restant humain et miséricordieux, Caton avait gardé sa haine invétérée contre César. Il avait près de lui le jeune Pompée, lequel, pris par un de ces instants de doute qui atteignent les cœurs les plus vaillants, demeurait inerte et irrésolu, et sans cesse il l'excitait à la vengeance. « Ton père, à l'âge où tu es, disait-il, ton père, voyant la République opprimée et les gens de bien tués ou proscrits, ton père, animé par son courage et par l'amour de la gloire, rallia les débris de l'armée qui avait servi sous son père à lui, et délivra Rome et l'Italie, pour ainsi dire ensevelie sous leurs ruines. » Puis, d'une vitesse sans égale, il reconquit l'Afrique et la Sicile et s'acquit un renom immortel, ayant triomphé presque au sortir de l'enfance et n'étant encore que simple chevalier. Et toi, l'héritier de sa gloire et qui devrais l'être de son courage, dis-moi, n'iras-tu donc pas en Espagne joindre les amis de ton père et donner à la République le secours qu'elle te demande dans sa détresse ? Enfin, touché de ses remontrances, en même temps que Scipion marchait contre César, le jeune Pompée prenait 30 vaisseaux, parmi lesquels quelques navires de guerre, et cinglait d'Utique vers la Mauritanie avec 2000 hommes, tant libres qu'esclaves. Par malheur, sa première tentative fut un échec. Il s'approcha d'Ascure, qui avait garnison, et somma la ville de se rendre. Mais au lieu de répondre à cette sommation comme s'y attendait Cnéus, la garnison sortit, tomba sur ses hommes, les mit en fuite, si bien qu'il n'eut que le temps de remonter sur ses vaisseaux et que, tirant vers les îles Baléares, il abandonna l'Afrique pour n'y plus revenir. Pendant ce temps, Scipion était venu camper à Hadrumète et, après un repos de quelques jours donné à ses hommes, il avait atteint dans une marche de nuit le camp de Labiénus. La jonction faite, il commença, grâce à son immense cavalerie, à faire des courses jusqu'au camp de César, s'embusquant et tombant à l'improviste sur eux qui allaient à l'eau et au fourrage. César se trouva donc bientôt dans la plus grande nécessité. Les convois de Sicile et de Sardaigne n'arrivaient point. Les bâtiments, à cause des tempêtes d'hiver, n'osaient courir la côte. De sorte que César, ayant une lieue ou une lieue et demie de pays libre tout au plus, manquait à la fois de pain pour ses hommes et de fourrage pour ses chevaux. Juba connut par ses coureurs l'extrémité où était réduit César, et son avis étant qu'il ne fallait pas lui donner le temps de se remettre, il sortit avec tout ce dont il pouvait disposer de force pour aller rejoindre Scipion. Mais profitant de cette absence, Publius Sitius, qui tenait pour César et le roi Bogude, que les Romains appelaient Bocchus, et qui faisait une guerre personnelle, poussée par sa femme Eunoé, amoureuse de César, Publius Sitius et le roi Bogude entrèrent dans les états du roi Numide et emportèrent d'un coup de main Cirta, qui était une de ses capitales, puis, après Cirta, deux autres places de Gétulie, dont ils massacrèrent les habitants. Juba apprit ses nouvelles au moment où il n'était plus qu'à quelques heures de marche du camp de Scipion. Il tourna court, lui envoyant demander à l'instant même toutes les forces qu'il lui avait prêtées à la réserve de 30 éléphants. En même temps, le bruit se répandait, et l'inaction de César confirmait ce bruit, que ce n'était pas lui, César, mais un de ses lieutenants qui était à Ruspine. César ne voulait point que l'on pût croire qu'il désespérait assez de son parti pour faire la guerre en Afrique par ses lieutenants. En conséquence, il envoya des messagers de tous côtés avec mission d'affirmer que c'était bien lui, César, qui commandait en personne. Dès qu'on sut que c'était vraiment lui qui se trouvait à Ruspine, les courriers abondèrent et plusieurs personnages de condition se rendirent à son camp. Tous se plaignirent de l'effroyable cruauté des ennemis. Ces plaintes attaquaient à la fois la miséricorde et l'orgueil de César. Aussi manda-t-il au préteur Alénus et à Rabeius Postumus de lui envoyer sans délai ni excuse le reste des troupes qu'il avait en Sicile, leur écrivant qu'il ne pouvait permettre de voir égorger l'Afrique sous ses yeux et les prévenant que, s'il tardait d'un mois seulement, les renforts qui arriveraient ne trouveraient pas une maison debout. Lui, cependant, restait constamment assis sur un endroit élevé du rivage, les yeux tournés vers la Sicile et attendant ses renforts dont l'arrivée devait être la fin de son inaction. Puis, de temps en temps, ne voyant rien apparaître à l'horizon, il revenait au camp, se retranchait de quelques nouveaux fossés, se fortifiant de quelques nouvelles citadelles, élevant des forts jusque dans la mer, autant pour la défense de l'armée que pour ne pas la laisser inoccupée. De son côté, Scipion dressait ses éléphants, disposait ses frondeurs en deux troupes, dont l'une lançait des pierres à ses monstrueux alliés, tandis que l'autre les repoussait en avant, lorsque, effrayés par cette pluie de granit, ils voulaient prendre la fuite. Mais ce n'était qu'à grand-peine, dit l'auteur contesté de la guerre d'Afrique, car l'éléphant le mieux instruit peut, dans le combat, nuire autant à ses amis qu'à ses ennemis. En même temps, Scipion se donnait la distraction de quelques meurtres en attendant les proscriptions de Rome. Aussi Virgilius Petronius, son lieutenant, qui commandait dans Tapsa, voyant des vaisseaux de César jouer de la tempête, errés à l'aventure et incertains du lieu où ils étaient, Virgilius Petronius arma des barques et des chaloupes, les remplit d'archers et se mit à la poursuite de ces navires vagabonds. Plus d'une fois, ces barques et ces chaloupes furent repoussées. Mais un jour, il prit un grand bâtiment où se trouvaient deux jeunes Espagnols, tribuns de la 5e Légion, dont le père avait été fait sénateur par César, et un centurion du même corps nommé Salienus. Les prisonniers furent conduits à Scipion, qui ordonna à l'instant même qu'on les mît à mort au bout de 3 jours, afin qu'ils eussent le temps de subir leur agonie. Au moment de l'exécution, l'aîné des deux jeunes gens ne fit d'autre demande que d'être tué le premier, pour n'avoir pas la douleur de voir égorger son frère sous ses yeux. Comme il s'adressait à des soldats et non à Scipion, la demande lui fut accordée. On savait ses cruautés dans le camp de César, et le cœur de César en saignait de douleur. Mais assez fort, et à cause de ses retranchements, dont le principal du reste était son génie, pour ne pas craindre que Scipion le vînt attaquer dans son camp, il n'était pas assez sûr, vu le peu de troupes qu'il avait, d'écraser son ennemi d'un coup, pour oser accepter une bataille décisive. Et cependant, tous les jours, Scipion sortait de son camp et venait lui offrir cette bataille, rangeant en face du camp de César ses troupes, comme pour le combat, restant là 5 ou 6 heures, puis se retirait au moment où venait le soir. Au bout de 8 à 10 jours de cet exercice, convaincu que César tremblait devant lui, il en arriva à approcher jusqu'à 100 pas des retranchements, les éléphants en tête et son armée derrière eux, étendue sur un front immense. Mais César ne se laissait irriter ni par ses démonstrations, ni par les menaces dont elles étaient accompagnées, et faisait rentrer, sans confusion ni tumulte, ceux de ses hommes qui étaient au fourrage, à l'égade ou au bois, et les habituait à regarder l'ennemi du haut des remparts et à répondre à ses menaces par des huées. Quant à lui, il savait si bien qu'on n'oserait pas l'attaquer dans son camp, qu'il ne prenait pas même la peine de monter sur les remparts et donner tous ses ordres couchés sous sa tente, ce qui ne l'empêchait point d'aller tous les jours s'asseoir sur le monticule qui dominait le rivage, hâtant de ses vœux et de ses soupirs l'arrivée de ses renforts depuis si longtemps attendus.